Alice Durand va ce soir nous parler de l'impact du numérique sur l'environnement. Elle vient de publier chez Delachaux et Niestlé « Rat de données ». Et effectivement, nous croulons sous cet impact. On en parle.
La première, le fin mot, Eddie Kakelbergs.
Il est tout à fait possible de combiner notre compétitivité européenne et notre capacité à créer une taxation du numérique si nous arrivons à trouver un consensus collectif. Les acteurs dominants du numérique jouissent d'une situation de concurrence déloyale parce que nous avons des modèles très divergents au sein de l'Union européenne. Ce sujet est donc un sujet important que nous aurons à faire progresser dans les prochains mois, mais qui a donné lieu hier à des premières discussions extrêmement honnêtes et directes entre nous.
Je m'appelle Laurent Hublet et je suis l'administrateur délégué de Bicentrale. C'est un campus numérique, donc c'est un endroit d'apprentissage et d'entrepreneuriat autour de la technologie numérique dans le bâtiment de la gare centrale.
Victor Horta en aurait écarquillé les yeux. Dans sa gare centrale, aux étages, des passionnés du numérique partout. Et même l'ancienne salle prestigieuse du conseil d'administration des chemins de fer est elle aussi pleine de monde et d'écran.
On a 35 initiatives qui sont ici dans le bâtiment. Un tiers sont des initiatives d'apprentissage des technologies. Un tiers sont des initiatives d'entrepreneuriat technologique et un tiers sont plutôt liés à la transformation numérique de la société, donc qui représentent des acteurs de la transformation.
Les 300 personnes qui fréquentent Bicentrale aujourd'hui ont toutes choisi de passer de l'autre côté de l'écran, de comprendre comment fonctionne un ordinateur pour le piloter, le programmer, pour réaliser des sites internet, des applications, des objets connectés. Aujourd'hui en Belgique, 14 000 postes sont à prendre en lien avec ces technologies. Mais pour beaucoup ici, le Graal, c'est développer sa propre idée, comme Mathis André.
Quel âge est-ce que vous avez ?
18 ans.
Votre rêve pour votre start-up ?
Dominer le marché avec la start-up, ce serait déjà une première bonne étape.
J'avais envie d'apprendre ce qui se passait derrière, behind the scenes.
Clara Schwartzmann.
J'ai étudié la psycho et la psychoclinique. J'ai choisi faire du codage pour un peu me séparer de la psycho, mais en fait, je vais faire appliquer le codage à la psycho. J'avais envie de faire une application pour un peu aider les gens à manager leur stress, pour prévenir les maladies communes.
Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Colom. On est tous les deux d'une association qui s'appelle BeMaker. Notre principe, c'est de passer dans les écoles pour parler à des étudiants de votre âge. On passe pour vous introduire aux pratiques des Fab Labs, des laboratoires de fabrication.
Dans ce camion style food truck, l'équipe montre comment, moyennant quelques bases de programmation, un robot peut faire ce qu'on lui demande. Un objet peut naître d'une imprimante 3D ou d'un graveur laser.
Est-ce que vous vous voyez dans un métier comme cela, un métier du numérique ?
Pourquoi pas ? Ça peut être tentant.
Moi, j'ai très envie d'en avoir une, d'imprimante de 3D, parce qu'il n'y a que notre imagination qui nous arrête.
La première. Le fin mot, Eddie Kakelbergs.
Bonsoir Alice Durand.
Bonsoir.
Vous êtes ingénieur de formation. Ça veut dire que vous avez baigné d'emblée dans ces avancées technologiques.
Effectivement, en fait, même depuis toute petite, je suis passionnée par les sciences. Et c'est comme ça que je me suis orientée vers l'ingénierie. Mais j'ai travaillé ensuite dans la recherche en écologie. Mais très vite, j'ai eu envie de transmettre les sciences, d'où ma profession actuelle de médiatrice scientifique. Parce que pour moi, c'est un enjeu sociétal très important que tous les citoyens puissent s'emparer des connaissances scientifiques et ne pas les concevoir comme quelque chose de lointain et d'étranger, mais prendre ces questions et ces enjeux à bras-le-corps.
Alors, on va avoir beaucoup de questions à se poser, mais je commencerai par peut-être celle qui nous ramène à l'école. Est-ce que nous avons loupé une étape, en gros, un peu dans tous nos pays, par peut-être absence de sens pédagogique aussi, à pouvoir effectivement vulgariser au mieux cette connaissance scientifique auprès du plus grand nombre ?
Effectivement, on a toute une partie de la population qui, dès le plus jeune âge, peut se sentir incompétente en matière scientifique. On l'entend souvent pour les mathématiques, mais c'est également le cas pour les technologies. Or, je pense que c'est quelque chose qui peut plaire à tout le monde parce que c'est pratique, c'est expérimental. J'ai notamment, moi, travaillé pour transmettre les sciences de manière expérimentale à travers la mise en place d'expériences, d'hypothèses, d'expériences et de critiques, en fait, pour voir tous les versants de la démarche scientifique. Et je pense que les sociétés et l'école ont un rôle à jouer là-dedans, justement, pour ne pas que les citoyens se sentent éloignés de ces enjeux.
Eh oui, quand j'étais gamin, il y avait de manière assez forte dans les écoles la présence de ce qu'on appelait les jeunesses scientifiques, un mouvement qui collaborait à cette façon de faire percoler les sciences et le goût des sciences. Ça s'est un peu estompé, ce qui est quand même paradoxal, vous le reconnaîtrez Alice Durand, au moment où, depuis 2-3 décennies, l'explosion technologique dans nos vies courantes est telle que nous avons toutes et tous quelque chose autour de nous que nous utilisons et qui a un rapport évident aux technologies et aux sciences.
Effectivement, les technologies, notamment numériques, sont omniprésentes dans notre vie quotidienne. Dès le plus jeune âge, les enfants ont affaire aux smartphones, aux écrans, aux ordinateurs de tout type. Et pourtant, c'est souvent considéré comme une boîte noire. Donc, on s'en sert, mais on ne sait pas du tout ce qui se passe à l'intérieur. Et je pense effectivement que ça soit l'école, mais l'association d'éducation populaire, tout le mouvement d'éducation populaire, a un rôle à jouer pour que l'ensemble de la population, et notamment les enfants, puissent expérimenter ces domaines-là.
Oui, parce qu'il y a dans une frange, où il y a eu peut-être, allez-vous nous dire que ça s'estompe, mais il y a eu dans une certaine frange radicale de l'écologie une méfiance énorme à l'égard de la science en disant « la science a produit cette dégénérescence » qui amène la société au bord du gouffre climatique, au bord du gouffre de la disparition des espèces, etc., et de l'épuisement des ressources. La méfiance vis-à-vis de la science n'est pas la solution.
Alors, effectivement, on a deux courants qui s'opposent un petit peu. Donc, les technophiles qui vont prôner en fait un développement des sciences pour sauver l'humanité ou le monde des menaces, des crises qui nous entourent. Donc, en matière de technologie, c'est ce qu'on appelle le IT for Green. Donc, les technologies vont nous permettre, par exemple, d'optimiser la récolte des déchets ou le transport de marchandises. Et d'un autre côté, on a les technocritiques qui vont nous dire, attention, plus on développe les technologies, plus leurs impacts sont importants. Donc, pour ma part, je pense que la solution ou la réalité, disons, se trouve quelque part entre ces deux. Il faut évidemment une critique envers les technologies, parce qu'on voit souvent que ce ne sont pas forcément les usages les plus vertueux qui vont être mis en avant, mais qu'il y a de nombreux enjeux, disons, commerciaux, marketing, qui vont inciter à consommer davantage, et donc les bienfaits des technologies pourront rapidement être estompés par leurs méfaits.
Oui, en fait, c'est moins la science et la technologie qui est en cause que les modèles d'utilisation, les modèles marketing, l'obsolescence programmée, etc. Ça n'a pas strictement à voir avec la science et la technologie. Les technologies sont des outils. Ceux qui prennent les décisions d'en faire ce que vous venez de décrire ne s'appuient pas sur la science pour le faire, mais sur la science commerciale et l'appât du gain.
Oui. Alors, en fait, on est plusieurs acteurs à décider de tout ça. Il y a les scientifiques qui ont leur rôle, bien sûr, dans le développement des technologies. Donc, c'est un peu grâce à eux ou à cause d'eux que se développent les technologies. Les entreprises qui vont utiliser ces technologies pour tel ou tel usage. Les politiques qui vont encadrer ou non l'usage de ces technologies. Et les citoyens, comme vous et moi, qui vont décider d'utiliser ou non ces technologies et de porter un regard bienveillant ou non sur elles.
Oui, il faut donc déjà en quelque sorte dire aux citoyennes et aux citoyens qui nous écoutent que, par exemple, se rendre vers un Repair Café parce qu'on peut réparer des technologies, quelles qu'elles soient, est un geste intelligent plutôt que de croire qu'il faille d'office jeter l'appareil au rebut.
Oui, alors effectivement, ça c'est tout à fait vrai. Concernant les technologies numériques en particulier, il y a un rapport qui est sorti de l'ADEME et de l'ARCEP. Donc l'ADEME, c'est l'Agence pour la transition écologique en France, et l'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques en France, qui nous informe qu'en France, 63,6 à 92% des impacts proviennent de la fabrication des appareils. C'est-à-dire, donc, ça, c'est une analyse selon le cycle de vie. On prend en compte différentes étapes, la fabrication, la distribution, l'utilisation et la fin de vie des appareils. Et on se rend compte que c'est la fabrication qui est largement majoritaire dans les impacts générés par le numérique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous, en tant que citoyens, en achetant moins d'appareils, en achetant des appareils qui pourront être réparés ou en allongeant la durée de vie des appareils, on peut avoir un impact bien moindre sur l'environnement en matière de nouvelles technologies. Donc oui, rendons-nous dans les repair cafés pour réparer nos appareils et les faire vivre le plus longtemps possible.
Oui, et faire pression via les associations de consommateurs sur le secteur industriel pour qu'ils arrêtent de produire à usage unique. Alice Durand, on nous a aussi fait miroiter depuis 2-3 décennies, voire plus, que toutes ces installations, que ce soit le téléphone, mais que ce soit la domotique, que ce soit toute une série d'autres choses, allaient en soi être la solution zéro carbone. Là, vous nous dites, mais quelle fantastique leurre. Et on se dit que là aussi, si on s'y connaissait mieux en science, intuitivement, on saurait que c'est faux.
Effectivement, donc on a une impression de légèreté pour tout ce qui est le numérique. On a des écrans très plats. Nos données sont stockées dans le cloud à distance de chez nous, même plus besoin d'avoir un disque dur à la maison. Et tout ça, ça nous donne l'impression que le numérique est dématérialisé. Il n'en est rien. Le numérique, c'est bien matériel. Il est constitué souvent dans les études d'impact. On va séparer les trois briques, les équipements, ce qu'on appelle les terminaux. En fait, ce sont les équipements que nous avons chez nous, les équipements des utilisateurs chez nous ou dans les bureaux. Les réseaux, c'est tout ce qui permet justement à ces équipements de dialoguer entre eux. Et les data centers qui permettent de stocker, disons, et de traiter ces données. Tout ça, ça a un impact. Ça a un impact d'abord au niveau des ressources minérales qui sont finies, ce ne sont pas des ressources infinies, qu'il faut exploiter à travers des exploitations minières qui ont des impacts, qui sont non seulement consommatrices d'énergie, mais qui aussi sont polluantes, qui détruisent les écosystèmes. Cela a des impacts à travers notre consommation, enfin la consommation d'électricité de ces appareils. Cette consommation d'électricité entraîne la consommation des ressources fossiles, charbon, pétrole, avec le relâchement de gaz à effet de serre, et également des radiations ionisantes quand on utilise de l'énergie nucléaire. Et enfin, l'émission de gaz à effet de serre, qui est responsable du changement climatique. Donc, au niveau mondial, on estime que c'est 3,7% des rejets de gaz à effet de serre dans le monde qui est dû au numérique. Ça n'a rien de négligeable et c'est en constante augmentation. C'est en constante augmentation, donc c'est ça qui est un peu problématique et c'est pour cela qu'il faut réfléchir à nos usages. C'est parce que cette proportion pourrait devenir de plus en plus grande dans les années à venir.
Évidemment, en disant 3,7%, d'aucuns vous diront « oui, mais alors les 50, 60, 70% qui suivent ont un impact plus fort que mon numérique. Mon numérique à moi n'a que peu d'impact réel sur l'affaire. » Et comment s'y prendre pour que les gens comprennent ? Parce que vous parliez aussi de l'exploitation minérale en disant impact écologique, etc. Mais il y a aussi l'impact humain. Les enfants qui doivent pénétrer dans les petits boyaux pour aller chercher le cobalt nécessaire pour nos téléphones portables ou les quelques gisements de terres rares qui nous rendent dépendants de grandes puissances, tout ça entre aussi en impact.
Bien sûr, tout ça rentre aussi en ligne de compte. Il faut savoir que les mines, les exploitations minières sont très fortement externalisées de nos pays. Donc, c'est quelque chose qu'on voit très peu en Europe. On peut se dire que c'est parce qu'il y a il y a certains minéraux qu'on trouvera moins en Europe, mais c'est aussi parce que les populations ne sont pas prêtes à accepter les impacts que cela génère. Quand on voit les mobilisations qui existent, par exemple, contre des parcs éoliens, vous imaginez bien que si demain une mine s'ouvre à côté de chez vous, avec les pollutions que ça peut générer, on va avoir une forte mobilisation. Donc, on a tendance à externaliser toutes ces mines, en fait, toutes ces externalités, et cela pose problème. Notamment quand on sait que les normes en matière d'exploitation minière permettraient en Europe un meilleur encadrement, que ce soit sur le plan de la santé, sur le plan des conditions de travail, par exemple. Voilà.
Oui, par ailleurs, quelle est la... Alors, il n'y a pas une solution, mais quelle est la voie à suivre ? Parce que, imaginez un peu comme certains qui s'opposaient au machinisme au début de la révolution industrielle, s'imaginer aujourd'hui que nos écosystèmes numériques vont s'éteindre demain parce qu'ils sont trop polluants, c'est rêver debout.
Oui. Les solutions, je ne sais pas lesquelles existent. Cependant, je pense que la première chose, c'est déjà d'être au courant, de s'informer de ces enjeux. Bien sûr, de faire preuve de sobriété, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Les deux sont importants, en fait. On a tendance à rejeter souvent sur le professionnel. Or, justement, dans cette étude de l'ADEME et de l'ARCEP, on voit que les impacts liés à l'usage et à la consommation personnelle sont plus importants que les impacts professionnels, même si ça reste dans les mêmes ordres de grandeur.
Il faudrait imaginer sur nos supports numériques, un peu comme on l'a fait sur les paquets de tabac ou sur les bouteilles d'alcool, de dire l'excès de numérique nuit à la santé de la Terre.
Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait être une solution. En tout cas, il faut absolument que les politiques s'emparent de ce sujet et proposent des axes de réflexion et des pistes d'action pour que l'ensemble des citoyens soient informés de ces enjeux. Et bien sûr, au niveau individuel, mettre en place la plus grande sobriété. On n'est pas obligé d'avoir 88%, par exemple, des Français remplacent leur smartphone alors qu'il fonctionne encore. Ça, c'est parce qu'on est soumis à des tentations marketing, en fait, où on va avoir tendance à trouver notre bien désuet alors qu'il remplit encore ses fonctions.
Donc, oui, tendance marketing ou alors tendance lourde dans un certain nombre d'exploitants de ces supports téléphoniques qui ne permettent plus à ce modèle de se mettre à jour.
Oui, alors il existe certaines marques de téléphone justement qui permettent un usage modulaire, donc qui permettent de changer la batterie ou d'autres composants du téléphone sans avoir à mettre le téléphone à la poubelle. Donc effectivement, il y a des choix de la part des fabricants et là, les politiques rentrent également en ligne de compte parce qu'ils peuvent imposer aux fabricants, par exemple, de mettre en place des systèmes qui permettent une homogénéisation des éléments qui permettront une meilleure réparabilité des équipements.
Si je me réfère à la couverture de votre ouvrage « Rat de données »,« Rat comme rat de marée », sous-titré « L'impact du numérique sur l'environnement », Alice Durand, je vois un téléphone portable dont l'écran est craquelé et qui déverse sur le côté une planète qui elle-même se délite. Rat de données, ça veut dire à la fois qu'il y en a trop, et c'est paradoxe parce que dans tout ce trop, on n'aurait pas les données essentielles qui nous permettraient de comprendre le problème ?
Oui, les données augmentent, la consommation de données augmente de manière exponentielle, elle triple tous les 3 ans. Donc, on voit bien qu'on est face à un véritable rat de données, donc un rat de marée de données. Et ça pose problème parce que, on le sait, notre planète n'est pas infinie et on ne peut pas avoir une croissance exponentielle de ces données, sachant que ces données impliquent de l'énergie consommée et des équipements pour les stocker. Donc, les dessins de Robert, vous citez cette couverture, viennent illustrer ce problème et le fait que, oui, effectivement, peut-être que les technologies ne sont pas utilisées à bon escient, en tout cas dans le but d'une transition écologique à court terme.
Vous le dites d'emblée, hein, votre ouvrage a pour but de permettre, aux ados comme aux adultes, de faire des choix éclairés et d'adopter au quotidien une posture citoyenne. Mais qu'en est-il des réponses scientifiques à ces défis créés par les sciences elles-mêmes ?
Les réponses scientifiques, elles existent. Il existe de nombreuses innovations qui permettraient de pallier effectivement à notre impact sur l'environnement. Mais comme je le disais, elles sont mises à mal en fait par l'ensemble de l'usage en fait, qui entraîne une augmentation exponentielle de notre consommation en minéraux, en énergie, etc. Je vais vous parler de l'effet rebond. Donc, c'est un corollaire du paradoxe de Givens qui a été conceptualisé justement pendant la révolution industrielle. En fait, on voyait qu'on consommait de plus en plus de charbon et ça pouvait être un problème. Donc, on a voulu mettre en place une machine à vapeur qui serait plus efficace, la nouvelle machine à vapeur pour diminuer cette consommation. Et on s'est rendu compte, en tout cas William Stanley Givens s'est rendu compte et a mis des mots dessus, que quand cette nouvelle machine a été inventée, au lieu de réduire la consommation de charbon, la consommation de charbon a augmenté de manière drastique. Pourquoi ? Parce que cette nouvelle machine, bien plus efficace, a été généralisée et donc le charbon a été utilisé en plus grande quantité. C'est ce qu'on voit, par exemple, aujourd'hui avec le transport aérien. Nos avions sont bien plus efficaces que par le passé. Cependant, la consommation globale en carburant du transport aérien a largement augmenté. C'est ce qu'on voit aussi avec, par exemple, l'avènement de la 5G, donc la cinquième génération de téléphonie, qui permet de communiquer de manière plus efficace du point de vue énergétique, donc de transférer des données de manière plus efficace. Et pourtant, cela entraîne une augmentation du flux de données qui entraîne une consommation énergétique plus importante. Donc, les sciences ne sont pas forcément la réponse à tout, même ne sont pas la réponse à tout si elles ne sont pas accompagnées d'une réflexion critique sur notre usage des technologies.
Est-ce que l'on peut raisonnablement, vous êtes journaliste, vous avez enquêté, est-ce qu'on peut raisonnablement imaginer aujourd'hui des réglementations qui cadrent, limitent cette croissance infinie de l'exploitation numérique ? Est-ce que vous la voyez poindre, cette volonté ?
Ce que je vois poindre déjà, c'est au niveau scientifique, une meilleure définition des cadres d'analyse, disons des protocoles. Vous pouvez concevoir qu'en fait, estimer l'impact du numérique, c'est quelque chose d'extrêmement complexe parce que selon les méthodes de calcul, on va pouvoir obtenir des résultats complètement différents. Donc ces études, ces estimations de l'impact, elles existaient pas ou très peu il y a une dizaine d'années. Elles commencent à se développer. Et ça, c'est un premier pas très important. Ça vient d'une. Il faut forcément, pour que ça ait lieu, il faut forcément qu'il y ait une volonté politique que ces études existent, puisqu'elles sont en partie payées par l'État. Mais ça vient aussi d'une volonté des entreprises. Certaines entreprises qui se mobilisent, qui mettent des personnes, des salariés au service de ces enjeux pour y réfléchir. Et également des citoyens qui peuvent être des professionnels aussi qui vont pointer du doigt ces problèmes. Au niveau politique, je vous cache pas que selon moi, ça va très lentement. Ça va extrêmement lentement. On le sait, la politique est largement guidée par des enjeux ou par des lobbies professionnels. Et forcément, c'est pas toujours dans l'intérêt des entreprises de pointer du doigt les méfaits du numérique sur l'environnement.
In fine, pour avoir le fin mot, à l'instar de ce que l'on envisage pour les véhicules thermiques, c'est-à-dire à terme leur interdiction, ou en tout cas de certains types de carburants, il faudrait commencer à interdire certaines pratiques numériques ?
Alors, pour ma part, comme je suis une fervente défenseuse de l'éducation, je pense que ça passe d'abord par une prise de conscience, donc par l'éducation des personnes. Des interdits... Peut-être, j'en suis peu convaincue. En tout cas, la question est là, la question est à l'ordre du jour. Est-ce que ça doit passer par des interdits, par des sensibilisations ou par des incitations économiques pour des solutions plus vertueuses ? Ce n'est pas vraiment de ma compétence. Moi, j'œuvre pour que tout le monde soit informé. Je pense que, comme je vous l'ai dit, c'est la fabrication des équipements qui a l'impact majeur. Une autre étude de Green IT de 2019 montrait que c'était les terminaux, donc les équipements des utilisateurs. Je pense donc que les citoyens peuvent avoir un impact en rejetant justement le fait d'acheter à tout va de nouveaux équipements numériques. Et je pense que ça peut passer par l'éducation.
Allez, j'imagine que vous vous associerez à mon appel en cette période de rentrée scolaire aux profs dans toutes les disciplines, et particulièrement scientifiques, pour qu'ils s'intéressent à ces questions et cherchent à transmettre ces savoirs, à allumer les petites loupiottes dans les cerveaux pour qu'on ait un comportement plus responsable, en tout cas, et plus informé sur ce monde numérique, et notamment en allant découvrir un certain nombre de données dans votre ras de données, l'impact du numérique sur l'environnement, Alice Durand, illustré par Robert, que vous publiez chez Delachaux et Niestlé. Merci d'être venu nous donner le fin mot.
Merci beaucoup.